À l'écoute de RFI, 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Jeudi 19 septembre, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la session soirée de l'info sur RFI, les temps forts des 3 heures à venir, le débat du jour à suivre dans 30 minutes dans une France où l'émotion reste forte après les révélations concernant l'abbé Pierre. Les accusations d'agression sexuelle se multiplient à son encontre, l'ex-personnalité préférée des Français tombe de son piédestal. Nous poserons la question, les icônes sont-elles immortelles? 18h10, TU, le décryptage qui reviendra sur la double attaque djihadiste survenue mardi à Bamako et les questions que ces attentats posent, ce qui nous emmènera jusqu'à la première édition d'Afrique Soir. 20 minutes plus tard, 18h30 TU, Zéphirin Quadio aux manettes. Enfin, 19h10 TU, votre session reportage, la saison culturelle de la Lituanie en France au menu d'Accent d'Europe. Enfin, le grand reportage pour parler du projet Mbappé. Suspense, mais pour l'heure, c'est le grand journal du soir et c'est avec Stéphane Geneste. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, après les explosions au Liban, le chef du Hezbollah promet un terrible châtiment contre Israël.
Hassan Nasrallah qui s'est exprimé tout à l'heure, en ne nommant jamais l'État hébreu, il reconnaît néanmoins que son organisation a reçu un coup sévère. C'est le dossier de votre journal. Toujours pas de bilan officiel au Mali, après la double attaque djihadiste de mardi à Bamako. Et si les autorités parlent de quelques pertes, des sources sécuritaires et civiles maliennes évoquent quant à elles un bilan très lourd de plus de 70 morts. Au sommaire également, Emmanuel Macron qui va recevoir son premier ministre Michel Barnier dans quelques minutes avec comme menu la présentation d'un nouveau gouvernement. Et c'est l'événement ce soir, Youssou N'Dour en concert sur RFI, rendez-vous à 22h10 heure de Paris.
Mais avant cela, évidemment, il y aura du football. L'actualité sportive dans RFI Soir, c'est à la fin de votre grand journal du soir. On va parler football, la dernière série des matchs de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions et notamment au programme ce soir, Monaco contre le FC Barcelone. Et donc c'est la première fois depuis les vagues d'explosion au Liban que le chef du Hezbollah s'est exprimé publiquement aujourd'hui.
Discours très attendu d'Hassan Nasrallah où il s'en est pris à Israël sans pour autant nommer l'État hébreu.
Des milliers de beepers ont été pris pour cible par l'ennemi israélien et ont explosé simultanément. Avec cette opération, l'ennemi a franchi toutes les limites, toutes les lois et toutes les lignes rouges. Il ne s'est soucié de rien, ni moralement, ni humainement, ni légalement.
Prise de parole d'Hassan Nasrallah ce jeudi après-midi. C'est l'objet du dossier du journal avec vous, Muriel Paradon. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Muriel, comment peut-on analyser d'abord ce discours?
Alors Hassan Nasrallah, vous l'avez entendu, parle d'attaque immorale parce qu'Israël a visé intentionnellement des membres du Hezbollah sans s'inquiéter des conséquences pour les civils libanais. Il parle même d'actes terroristes. Il reconnaît par ailleurs que ces attaques ont porté un coup sévère à son mouvement, mais qu'il n'est pas à terre, que ses infrastructures ne sont pas ébranlées. Elle reste robuste et puissante, dit-il. Il met également en garde l'armée israélienne contre une éventuelle offensive terrestre au sud Liban, afin de permettre le retour de dizaines de milliers d'Israéliens qui ont fui le nord du pays à cause des tirs de roquettes du Hezbollah. Ce retour ne sera pas possible, prévient Hassan Nasrallah. Nous continuerons à nous mobiliser à la frontière, comme nous le faisons depuis le 8 octobre. La seule façon de nous arrêter est de stopper la guerre à Gaza, rappelle le chef du Hezbollah. C'est la même rhétorique depuis plusieurs mois.
Hassan Nasrallah qui promet un juste châtiment, ce sont ses mots à Israël. Alors Muriel, à quoi faut-il s'attendre?
Alors il est obligé de répondre à ce qui s'est passé ces deux derniers jours, du moins dans le discours, mais il faut se rappeler qu'après les différentes attaques menées contre le Hezbollah sur le sol libanais, notamment l'élimination de Fouad Chokr, le chef militaire du mouvement, le 30 juillet, on s'attendait à une riposte d'ampleur et elle n'a pas eu lieu. La milice chiite, tout comme l'Iran, n'ont pas intérêt à s'engager dans une guerre frontale avec Israël. Pour l'instant, on en reste à un conflit de basse intensité à la frontière avec ses montées de tensions. Aujourd'hui, par exemple, 2 soldats israéliens ont été tués à cette frontière avec le Liban. Et durant le discours d'Hassan Nasrallah, des avions de chasse israéliens ont franchi le mur du son au-dessus de Beyrouth comme un avertissement supplémentaire.
Et tout va dépendre de ce que prépare Israël.
Alors, les opérations militaires contre le Hezbollah vont continuer. C'est ce que vient de déclarer Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien. La question est de savoir si elles vont monter en puissance. Hier, il affirmait que le centre de gravité de la guerre se déplaçait vers le nord. comprendre que des troupes engagées à Gaza pourraient être redéployées vers le nord d'Israël pour une opération sur le sud Liban, même s'il y a de nombreuses pressions aujourd'hui de la part de la communauté internationale pour éviter toute escalade, pour éviter un conflit régional.
Le dossier du journal avec Muriel Parardon. Merci Muriel. Situation évidemment à l'ordre du jour d'une réunion ce jeudi soir à Paris. En présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, seront donc représentés en plus de la France et des États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Et dans ce contexte, les compagnies aériennes Lufthansa et Air France annoncent prolonger la suspension de leurs vols pour Tel Aviv et Beyrouth, en raison précisément des tensions dans la région.
Allez, le Mali à présent, les autorités n'ont toujours pas fourni de bilan officiel après la double attaque djihadiste qui a frappé la capitale mardi dernier.
Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été attaquées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe lié à Al-Qaïda. Les autorités de transition reconnaissent quelques pertes, mais plusieurs sources évoquent quant à elles un bilan très lourd, à savoir plus de 70 morts, David Baché.
Plus de 70 morts, c'est ce qui a pu être recoupé auprès d'un nombre important de sources sécuritaires et civiles maliennes. Certaines de ces sources avancent même un bilan encore plus élevé. Parmi les plus de 200 blessés également rapportés, certains ont ensuite succombé à leurs blessures. Sur ces plus de 70 morts, une vingtaine a perdu la vie dans l'attaque de la base militaire située à l'aéroport de Bamako. L'essentiel des victimes a été tué à l'école de la gendarmerie du quartier de Faladier. Pas de détails précis dans ces chiffres sur la part de gendarmes, de soldats et de civils parmi les victimes. Les djihadistes ont visé mardi des cibles militaires, ce qui n'avait pas été le cas en 2015, lors des attentats de la Terrasse et du Radisson. Dans ses messages de propagande, le JNIM lié à Al-Qaïda avait revendiqué mardi une centaine de personnes tuées ou blessées avec de lourdes pertes infligées aux mercenaires de Wagner. Les dirigeants maliens de transition refusent depuis longtemps toute transparence sur les victimes des groupes armés terroristes. Officiellement, pour ne pas faire le jeu de l'ennemi et démoraliser les troupes, les critiques du régime estiment qu'il s'agit plutôt de cacher l'état réel de la situation sécuritaire dans le pays.
Les précisions de David Baché du service Afrique de RFI. Toujours sur le continent, la première campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique a débuté mardi au Rwanda. C'est un porte-parole de l'agence sanitaire de l'Union africaine qui l'indique. Il précise qu'environ 300 personnes à haut risque ont été vaccinées.
À Strasbourg, le Parlement européen poursuit sa session plénière de rentrée.
Avec ce vote marquant, tout à l'heure, par 309 voix contre 201, le Parlement européen reconnaît l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia comme le président légitime élu démocratiquement du Venezuela. Une résolution certes non contraignante, mais elle fait polémique, Vincent Sourio.
Oui, ce texte condamne, je cite, la fraude électorale orchestrée par le régime de Nicolas Maduro, le président sortant du Venezuela, et rappelle que cette élection présidentielle qui s'est tenue au mois de juillet n'a pas respecté les normes internationales. Mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est la mise au point de cette résolution, orchestrée main dans la main avec deux groupes jusqu'ici infréquentables. Car la droite traditionnelle rassemblée au sein du PPE s'est alliée d'une part à la formation ECR, animé par le parti néo-fasciste de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et d'autre part aux Patriotes pour l'Europe, une alliance d'extrême droite présidée par le numéro 1 du Rassemblement National, Jordan Bardella. Au nom des sociaux-démocrates européens, le français Raphaël Glucksmann dénonce un acte inquiétant qui montre, selon lui, l'absence totale de scrupules ou de réticence des conservateurs à s'allier avec des forces politiques contraires aux valeurs fondamentales de l'Europe démocratique, et position similaire du groupe centriste, le groupe Renew, celui du parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen, qui, dans un communiqué, Stéphane, dit refuser la normalisation de l'extrême droite.
Les explications de Vincent Sourio pour RFI. Merci Vincent.
La politique en France à 19h, bientôt 9 minutes ici à Paris. Stéphane Genest, on est très près de la présentation d'un nouveau gouvernement.
Et il a fallu être patient. Deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier a organisé une réunion décisive cet après-midi avec les forces susceptibles d'intégrer son gouvernement. Et c'est après cet entretien qu'on a appris que le Premier ministre allait proposer à Emmanuel Macron son casting pour son nouveau gouvernement, précisément. Entretien prévu à l'Élysée. Il devrait commencer dans une poignée de minutes, Charlotte Turin-Tomaca.
Oui, un accord aurait donc été trouvé après plus d'1h40 d'entretien cet après-midi rue de Varenne. Un gouvernement qui serait donc composé de 38 ministres, 16 de plein exercice, 22 secrétaires d'État et ministres délégués. 7 ministères glanés donc par Gabriel Attal, ancien Premier ministre pour son parti Renaissance, 3 par la droite républicaine de Laurent Wauquiez, de Modem, un Horizon, un UDI. C'est donc la Macronie qui reviendra en force dans ce futur gouvernement. Trois ministères pour la droite républicaine, alors qu'ils imaginaient la moitié du gouvernement. Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont quitté la rue de Varenne une demi-heure après les autres participants à la réunion. Michel Barnier a probablement dû leur faire avaler la pilule. Maintenant, le Premier ministre va proposer un gouvernement avec des noms au chef de l'État. Et selon la Constitution, le Premier ministre propose et le président dispose. Les choses se sont donc accélérées ces dernières heures.
Charlotte Turien-Thomas, en direct de l'hôtel Matignon pour RFI.
Et puis également en France, cette nouvelle audience très forte aujourd'hui à Avignon.
Audience éprouvante au procès Mazan, où Gisèle Pellicot fait face à son mari, accusé d'avoir recruté des dizaines d'hommes sur Internet pour la violer après l'avoir droguée, mais aussi à 50 de ses violeurs présumés, dont la majorité affirme avoir cru participer à un scénario libertin et donc qu'elle était consentante. Le premier, justement, de ces 50 accusés s'est exprimé tout à l'heure. Lionel, ce vendeur, âgé aujourd'hui de 44 ans, a reconnu les faits. Compte rendu d'audience à Avignon, signé Laura Martel.
Dès son arrivée à la barre, Lionel expose sa position. « Je n'ai jamais eu l'intention de violer Madame Pellicot, mais n'ayant jamais eu son consentement, je ne peux que constater les faits. » Marié, père de 3 enfants, Lionel mène une vie heureuse avant de tomber dans une sombre spirale. Alcool, dépression, endettement, infidélité. Et puis un jour, parmi les propositions qu'il reçoit sur le site porno Coco, celle de Dominique Pellicot pour une relation à trois. Une proposition un peu originale, concède-t-il. Il dit qu'il est en couple, mais qu'elle dormira. Il me parle de cachet qu'il lui donne ou qu'elle prend elle-même. Ce n'est pas très clair, mais à ce moment là, je ne me pose pas plus de questions, je suis persuadée que c'est un fantasme de couple. Sur place, Madame Pellicot dort vraiment, c'est clair, pointe-t-il, mais je fais ce qu'il me dit de faire, ce n'est pas une excuse, mais je perds complètement pied. Ce n'est que 30 minutes plus tard, quand Dominique Pellicot le fait sortir de la chambre parce que Gisèle bouge, qu'il réagit. Je réalise qu'il y a un gros problème, puisqu'il ne faut pas qu'elle se réveille devant moi. Lionel exprime ses regrets de ne pas avoir prévenu la police, notamment par lâcheté, et multiplie les excuses à Gisèle Pellicot. Elle reste de marbre. Je me sens coupable de viol, des acte, répète l'accusé, mais c'était involontaire, même si j'aurais dû partir bien avant. Dans le box, Dominique Pellicot commente acerbe. Il se repent, mais c'est peut-être un peu tard.
Le récit de notre envoyé spécial à Avignon, Laura Martel. Les incendies au Portugal en passent d'être maîtrisés. Ils ont détruit plus de 100 000 hectares et ont causé la mort d'au moins 7 personnes. La police portugaise annonce d'ailleurs avoir arrêté 14 personnes soupçonnées d'incendies criminels à la suite de ces dizaines de feux. Et 4 jours après le passage de la tempête Boris en Europe centrale, qui a fait une dizaine de victimes et des dégâts colossaux, la présidente de la Commission européenne s'est rendue en Pologne, Ursula von der Leyen, qui annonce une aide de 10 milliards d'euros pour les pays touchés par ces inondations.
C'est une nouvelle étape, cet accord de l'OCDE qui a été signé aujourd'hui à Paris. Il promet plus de justice fiscale pour les pays en voie de développement.
Les ministres des Finances de la RDC, de l'Indonésie, de la Barbade ou encore de la Bulgarie étaient présents. Convention qui permet aux juridictions de taxer jusqu'à 9% des fonds des multinationales qui partent vers des paradis fiscaux à l'étranger. Alors pour l'instant, seulement 9 pays ont signé cette entente. Une dizaine d'autres ont quant à eux manifesté leur intention de le faire. Et Gaëlle Bonin, cette convention doit surtout favoriser les pays les plus pauvres.
Cet outil sera utilisé par les pays signataires au moment de négocier de nouveaux traités fiscaux. Si leurs partenaires refusent d'inclure la règle, l'OCDE pourra les défendre. L'ex-directeur des politiques fiscales de l'organisation, Pascal Saint-Amand, est à l'origine du projet.
C'est un progrès significatif pour restaurer davantage les droits d'imposer, notamment des pays en voie de développement, car cette règle, elle va permettre aux pays en voie de développement qui avaient perdu la possibilité de taxer certains profits multinationaux de la restaurer. Et c'est un droit des pays en voie de développement d'exiger cela de leurs partenaires, donc c'est une bonne nouvelle.
Mais l'application de la convention reste très complexe. Elle est non contraignante. Chaque demande doit être faite individuellement, négociée puis inscrite dans un accord bilatéral. Tove Maria Riding, du réseau de surveillance financière Eurodad.
D'un point de vue administratif, ce sera très difficile à mettre en place. Évidemment, cette cérémonie de signature donne l'impression qu'on est dans une ère de changement. Jusqu'à ce qu'on se penche sur les détails et qu'on réalise que cette nouvelle règle ne va pas changer grand-chose.
L'OCDE, elle, qualifie cette convention d'avancée majeure pour la justice fiscale. Depuis plus de 10 ans, l'organisation économique s'acharne à réformer la fiscalité internationale.
Gali Bonin, du service économie de RFI.
Allez, de la musique pour terminer ce grand journal du soir. Stéphane Jeunesse, 3 ans après l'album Icar, Émilie Loiseau, la chanteuse franco-britannique, revient avec La Souterraine.
Un disque rock qui, malgré son nom, se veut un appel à la joie et à la lumière, avec des morceaux chantés en français et en anglais autour des thèmes de l'écologie ou encore de la solidarité. Edmond Sadaka l'a écouté pour nous.
Émilie Loiseau s'est fait connaître en France avec un premier disque intitulé « L'autre bout du monde ». C'était en 2006. Il a séduit un large public. Aujourd'hui, son nouvel album est centré autour de thèmes qui lui sont chers, dont celui de l'écologie. C'est le cas, par exemple, sur la chanson-titre « La souterraine ». La chanteuse y met en parallèle un monde en train de brûler et une femme en proie à une relation toxique. Et dans les deux situations, le monde semble indifférent. Émilie Loiseau.
Il y avait une forme de colère très forte, je crois. La première énergie fut celle-là, face aux dérèglements climatiques, aux problèmes d'exil, aux problématiques sociales. Ça me laissait sans voix.
Dans la voie souterraine, elle allait danser chaque soir, elle aime. Dans la voie souterraine.
Pourtant, sur cet album, Émilie Loiseau parvient à mettre en lumière l'espoir davantage que l'inquiétude.
C'est une recherche de lumière, de réconfort, de danse pour la vie.
Émilie Loiseau a fait appel pour la seconde fois consécutive au service d'un génie de la production pour ce disque, le Britannique John Parrish, fidèle collaborateur notamment de sa compatriote, la chanteuse PJ Harvey.
J'ai couché nos peines, j'ai couché nos larmes.
Et ce sont quelques notes de la route de Vénus d'Émilie Loiseau que nous écoutons. Et d'une musique à une autre, cette information musicale, évidemment, Romain Ozui. Puisque vous le savez, c'est l'événement. Ce soir, sur RFI, le concert de Youssou N'Dour, enregistré pendant les Jeux Olympiques de Paris à la Station Afrique. Concert du chanteur sénégalais que vous entendrez ce soir à 22h10, heure de Paris, 20h10, temps universel. Un show exceptionnel que vous fera revivre Claudicia.
Et que vous écouterez tout en préparant 24 ans en France, Stéphane Genest.
Et oui, juste avant, ce sera le journal de 22h.
Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Oui. C'était grand journal du soir. Et il est 19h16 ici à Paris. Merci Stéphane Genest. Il était surnommé le nazi de Damas, ex-chef du camp de Drancy. Aloïs Brunner a vécu des années protégé en Syrie. L'hebdomadaire Le Point a pu rencontrer l'un des hommes qui était en charge de sa sécurité. Nous appellerons le journaliste qui a réalisé le reportage dans les prochaines minutes. Nous irons ensuite en Allemagne où la montée en puissance de l'extrême droite soulève de nombreuses inquiétudes. Illustration dans le secteur de la santé, dans les régions où l'AFD a récemment battu des records et où de nombreux personnels soignants d'origine étrangère et bien désormais se posent la question de leur avenir. Pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Romain.
Allez, le football à la une, évidemment, ça continue. La dernière série de matchs de la première journée des phases de poule de la Ligue des Champions, elle se termine ce soir avec une belle affiche hein, qui est au menu. Monaco contre l'FC Barcelone.
Voilà 6 ans que le club de la Principauté n'a pas disputé la C1. C'est donc un grand retour sur la plus grande scène européenne face à l'une des équipes les plus en forme de ce début de saison. Les Catalans tournent à plein régime pour les premiers pas du nouveau technicien du club barcelonais, l'allemand Hansi Flick, avec 5 victoires en 5 matchs et 17 buts marqués. Au passage, pas de quoi aborder ce match avec suffisance, comme l'a confié le défenseur français du Barça, Jules Koundé.
Ils ont très bien commencé le championnat avec 3 victoires et un match nul. On les a aussi joués au trophée Gamper où on avait perdu. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de talent offensif. C'est une équipe jeune, une équipe forte physiquement, qui met de l'intensité. Donc on s'attend à ce même type d'adversaire qui arrive encore avec sûrement plus de confiance par rapport au moment où on les a joués. De notre côté aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a du temps qui s'est écoulé et on arrive aussi en pleine confiance. Et ça sera un match difficile, mais on l'aborde avec confiance parce qu'on s'est bien préparé.
AS Monaco, FC Barcelone, coup d'envoi, 19h, temps universel.
Alors, il y a un autre club français qui va être en lice ce soir, club novice dans la compétition d'élite du football européen, qui est la Ligue des Champions, c'est le Stade Brestois.
Ouais, le club finistérien s'apprête à plonger dans l'inconnu après sa brillante saison dernière de Ligue 1 achevée à la 3e place. Et le démarrage dans la plus prestigieuse des compétitions se fera en douceur avec une équipe du même chapeau que Brest, les Autrichiens de Sturm Graz. Au sein de l'effectif breton, seuls 8 membres de l'effectif ont déjà goûté à la Ligue des Champions par le passé. Pour les autres, le rêve va devenir réalité à l'image du capitaine Brendan Chardonnay, néanmoins serein à l'approche de ce grand rendez-vous.
Oui, on réalise, je réalise. Alors c'est vrai qu'il y aura une étape supplémentaire encore quand on va venir reconnaître le stade, quand on va s'échauffer, quand réellement la musique de la Ligue des Champions va se mettre à résonner dans le stade. Là, l'étape supplémentaire sera passée, mais oui, on réalise pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est plutôt tranquille dans le groupe. Pour l'instant, on prépare le match, alors pas comme d'habitude, on va dire, mais ça reste relativement simple. Le groupe est serein, mais on a hâte à demain.
Brest-Sturm Graz, c'est au stade du Roudourou de Guingamp, hein, l'enceinte bretonne n'étant pas homologuée pour la C1. Et puis à la même heure, il y aura deux autres rencontres, Atalanta-Bergam-Arsenal et Atlético Madrid-Leipzig.
Voilà pour 19h TU. En attendant, Babacar, comme à chaque soir de Ligue des Champions, hein, depuis que ça a débuté, il y a deux matchs avancés.
Et pour le moment, les équipes à l'extérieur mènent. Le Bayer Leverkusen mène 1-0 sur la pelouse de Feyenoord-Rotterdam. Le Benfica Lisbonne en fait de même du côté de Belgrade, 1-0 face à l'Étoile Rouge.
Alors souvenez-vous ce score de 9-2, il est peu probable de le revoir, hein. C'était mardi soir la victoire du Bayern face au Dynamo Zagreb dont l'entraîneur vient d'être limogé.
Le Bosnien Sergei Jakirovic n'a pas survécu à cette raclée historique reçue face au club allemand déchaîné, d'autant moins que Zagreb avait perdu le week-end précédent contre ce grand rival du championnat croate, l'Ajduk Split. Le Dynamo Zagreb aura donc un nouveau technicien sur son banc pour la réception de Monaco à l'occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions.
Eh bien merci Papa Cardiara, c'était le journal des sports sur RFI. Il est 19h20 ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Il était l'un des criminels les plus recherchés après la Seconde Guerre mondiale, l'officier SS Alois Brunner. L'hebdomadaire Le Point publie une rencontre exclusive, rencontre avec l'une des personnes en charge de la sécurité de cet homme, surnommé le nazi de Damas. Bonsoir Guillaume Perrier.
Oui, bonsoir.
Journaliste au Point, c'est vous qui livrez ce reportage, c'est vous qui avez fait cette rencontre. D'abord, pourquoi le nazi de Damas ? Il faut préciser que c'est en Syrie qu'Alois Brunner a vécu pendant de nombreuses années et où il a été protégé.
Oui, absolument. Bah, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, Alois Brunner a d'abord vécu sous de fausses identités en Allemagne, hein, jusqu'en 1953. Ensuite, il a fui, comme beaucoup d'anciens nazis. Il a essayé de fuir. Alors certains partaient en Amérique du Sud et d'autres au Moyen-Orient. Lui, il a fui en Égypte, où les services occidentaux ont retrouvé sa trace. Et ensuite, il est donc parti en Syrie, puisque à la fin des années 50, début des années 60, l'Égypte et la Syrie ont formé une éphémère République arabe unie. Et donc, c'était le même pays à l'époque.
Et alors, à quoi ressemblait sa vie en Syrie ? Que vous a dit la personne que vous avez rencontrée, qui faisait partie des personnes qui étaient en charge de la sécurité de cet homme ?
Oui, alors ce qui est fascinant, c'est qu'Alois Brunner, donc, qui était le bras droit d'Adolf Eichmann, hein, ça a été un des grands architectes, je dirais, de la solution finale et de l'extermination des Juifs d'Europe. Il a participé à la déportation de plus de 125 000 Juifs, hein, de France, de Slovaquie, de Grèce. Donc Alois Brunner était vraiment quelqu'un d'extrêmement recherché, hein, une cible de choix, et il a été protégé effectivement par le régime syrien. Alors la fin des années 50, comme je vous l'indiquais, et puis ensuite il a été recyclé, hein, en quelque sorte auprès du régime Assad, qui est arrivé à Fès al-Assad, hein, le père de l'actuel dictateur Bachar al-Assad, est arrivé au pouvoir au tout début des années 70, et il a, avec son régime, utilisé en quelque sorte l'expérience, hein, d'Alois Brunner pour tenir des prisons, pour organiser des services de renseignement, pour organiser des lieux de détention de prisonniers. Donc cette expérience d'ancien nazi a été mise au service du régime syrien à partir des années 70. Et Alois Brunner a vécu quasiment 50 ans, hein, en Syrie. On a oublié un petit peu sa trace. Quelques personnes rares étaient à ses trousses, hein, notamment les époux Klarsfeld, puisque il faut rappeler cette petite histoire dans la grande, c'est que Serge Klarsfeld, qui vivait à Nice, hein, au moment de la guerre, qui était un jeune enfant, son père, Arnaud, a été déporté sur l'ordre d'Alois Brunner, qui a organisé lui-même la déportation des Juifs de Nice. Donc, ce qui explique aussi pourquoi, après, Serge Klarsfeld a été aux trousses de ce criminel nazi pendant toute sa vie, sans jamais pouvoir le confondre, en fait. Hein, voilà, mais il a retrouvé sa trace à Damas, et c'est notamment un de ceux qui a pu permettre l'identification d'Alois Brunner à Damas à l'époque, qui vivait sous un pseudonyme, sous de faux papiers. Il s'appelait le docteur George Fisher.
Et il y avait une grosse omerta en Syrie concernant cet homme, puisque la personne qui était en charge de sa sécurité ne savait même pas, en fait, de qui il s'occupait.
Oui, alors ce que nous explique ce garde, hein, que nous avons retrouvé, c'est un homme, c'est un Syrien qui a aujourd'hui 57 ans, qui nous raconte en fait son expérience pendant son service militaire. C'était donc à la fin des années 80, il était jeune appelé et il effectue son service au sein de la branche 300 des services de renseignement syriens, qui est l'une des plus secrètes, hein, qui est consacrée à la sécurité des personnalités et la sécurité des quartiers chics de Damas. Il est affecté à cette mission, on lui demande de surveiller un immeuble et son occupant, sans lui expliquer qui se trouve à l'intérieur, et rapidement il s'aperçoit qu'il s'agit d'un étranger, quelqu'un qui parle avec un fort accent allemand, mais il n'a jamais le droit de poser de questions sur cet homme, ni de l'appeler par son vrai nom. C'est évidemment par bribes, hein, qu'il va comprendre son histoire, et petit à petit, comme il nous explique à l'époque, évidemment, il y a deux chaînes de télévision totalement contrôlées par le régime, il n'y a pas Internet. Les Syriens ne savaient même pas ce qu'était le nazisme, si vous voulez. Donc ça n'est seulement qu'après la mort de Brunner, ou en tout cas après les années 2000, après l'arrivée d'Internet, que les gens ont pu commencer à avoir accès à un petit peu d'informations. Et c'est là seulement qu'il a compris qui était cette personne, ce vieux monsieur qu'il avait gardé pendant plusieurs années.
Révélation sur le nazi de Damas. C'est à lire cette semaine dans l'hebdomadaire Le Point. Merci beaucoup, Guillaume Perrier.
Merci.
En Allemagne, l'extrême droite monte en puissance et cela soulève de nombreuses questions. Par exemple, en Saxe et en Thuringe, deux régions où l'AFD, lors des dernières élections, a obtenu des résultats records, le doute grandit auprès notamment des personnels soignants d'origine étrangère. Certains sont déjà partis, d'autres se posent la question de leur avenir dans un climat de hausse de la xénophobie et alors que le secteur de la santé ne pourra pas fonctionner sans main-d'œuvre étrangère. C'est un reportage de Delphine Nerbollier.
Samer Matar est un médecin syrien. Il est arrivé en Allemagne il y a 10 ans déjà. Et depuis 2021, il travaille en tant que cardiologue dans la ville saxonne de Leipzig. Sa ville de cœur, comme il le dit. Et pourtant, il envisage de la quitter. En cause, les 30% obtenus il y a 3 semaines par l'extrême droite dans cette région.
Je suis en train de changer de poste pour vivre dans une région où l'extrême droite n'est pas aussi forte. En Saxe, l'AFD a obtenu 30% des suffrages. Et ça va encore augmenter. Je n'ose pas imaginer ma vie ici sur le long terme.
Craintif quant à l'avenir, ce cardiologue reconnaît ne pas être victime de racisme dans son activité professionnelle. Les médecins bénéficient d'un certain respect de la part de la population, mais cela pourrait changer selon lui. La perspective de départ massif pourrait s'avérer dramatique pour des régions comme la Saxe et la Thuringe, situées dans l'est de l'Allemagne. À l'heure actuelle, en Saxe, un médecin hospitalier sur 6 est étranger et 1 sur 4 dans la Thuringe voisine. En Thuringe, justement, Christina Schuck s'interroge elle aussi sur son avenir. Cette ophtalmologue de 29 ans a fui l'Ukraine il y a 2 ans et tente de faire reconnaître son diplôme dans la ville de Iéna où elle vit avec sa mère et son fils. Ce qui gêne Christina Schuck, c'est la montée des extrêmes et le soutien assez fort d'une partie de la population locale envers la Russie.
Mes collègues ont souvent des positions différentes de la mienne sur les livraisons d'armes. Ils ne comprennent pas. Que puis-je dire ? Les gens qui n'ont pas vécu la guerre ne peuvent pas savoir, je le comprends. C'est comme ça, j'accepte les idées différentes des miennes. Je suis reconnaissante pour l'aide apportée à mon pays et j'essaie de me concentrer sur le positif.
Moins anxieux que ses collègues, le cardiologue syrien Anas Yano n'envisage pas de quitter Iéna, cette ville de Thuringe où il occupe un poste de médecin-chef. En revanche, pas question d'aller travailler dans la campagne thuringeoise, là où l'extrême droite, ouvertement xénophobe, est la plus forte.
Pour être vraiment honnête, dans le contexte électoral actuel, pour moi, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une ville internationale comme Iéna plutôt qu'en zone rurale. En revanche, nous sommes nombreux à nous inquiéter de ce qui peut se passer pour les habitants et nos collègues d'origine étrangère sur place.
Les responsables politiques et représentants des services médicaux en Saxe et en Thuringe tentent pour l'instant de minimiser ces craintes. Officiellement, il n'y a encore aucune vague de départ de médecins et soignants étrangers liés à la situation politique. Delphine Herbollier, Berlin, RFI.
Et retour à Paris dans un peu plus d'une minute. Il sera déjà 19h30, l'heure du débat du jour, après les révélations qui se sont succédées ces dernières semaines concernant l'abbé Pierre, longtemps personnalité préférée des Français et accusé de multiples agressions sexuelles. Les icônes sont-elles immortelles? Voilà la question que nous poserons. Est-ce qu'il est possible de différencier l'œuvre de l'homme? Restez à l'écoute de RFI, on revient dans une minute.
ce jeudi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Ils vivent dans une région où l'extrême droite a fait ses meilleurs scores. En Thuringe, en Allemagne, certains médecins étrangers, essentiels pour la bonne marche de l'hôpital, envisagent de partir pour fuir le climat de xénophobie.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission « Questions de femmes », les maux de dos. Identifier l'origine des douleurs et les prises en charge qui apportent du soulagement.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.